Mémoire de vie, mémoire de ville, un projet radiophonique imaginé par l'Association des petites cités de caractère de Bretagne, associé à la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Durant l'été 2023, des seniors ont été mobilisés dans 7 petites cités de caractère de Bretagne pour témoigner de leur vie passée, leur vie d'aujourd'hui et celle de demain. C'est ainsi que se sont posés les micros de Radioactive à Montcontour, de Radio Évasion au Fouet à Pont-Croix, de Fréquence 8 à Montfort-sur-Meux, de Paroles de Vie à Dol de Bretagne, de Radio Brodgenet à Gemley-sur-Scorff et de Plume FM à Rochefort-en-Terre. Cette action régionale s'inscrit dans le cadre de l'été culturel lancé par la DRAC de Bretagne. Bienvenue dans l'une des petites cités de caractère de Bretagne.
Alors 400 mètres à gauche au moins et 400 mètres à droite, hein, c'est toute cette côte que l'EDF convoite pour mettre sa fameuse centrale. Et ça, nous ne le voulons pas et c'est pour cela que nous luttons.
En 1974, la crise pétrolière oriente la France vers le tout nucléaire. Elle choisit d'inclure le site de la Pointe du Raz, plus précisément le petit port de Fontenaude, sur la commune de Plogoff, pour son programme d'investissement de centrales. C'est un lieu isolé des grandes villes et des protestataires, avec suffisamment d'eau fraîche pour refroidir les réacteurs de la centrale. À l'époque, la Bretagne était plutôt de droite et revendiquait une chance de repeupler une zone fouettée par l'exode des jeunes actifs. Un plan donc sans accroc pour EDF, qui ne jugea pas nécessaire de sonder les populations locales. La pointe bretonne avait déjà essuyé les plaies de plusieurs marées noires désastreuses au début des années 70. La population apprit par les journaux que le site de Plogoff a été choisi pour accueillir la fameuse centrale bretonne. Un effroyable climat de peur s'empara des habitants. Seulement, depuis les tragédies environnementales causées par l'industrie pétrolière, des défenseurs de la nature ont investi le territoire et ne voyaient pas d'un très bon œil ce qui se profilait à l'horizon. Avec les habitants, ils ont décidé de faire bloc contre le projet et la mobilisation générale des habitants du Cap-Sizun ne s'est pas fait attendre, y compris à Pont-Croix, une ville réputée pour ses débats politiques particulièrement houleux. Madame de Courchelles a vécu ces événements d'une façon bien surprenante. Native du Loir-et-Cher, elle est arrivée en 1979, juste avant les manifestations. Les événements de Plogoff ont déclenché un amour inconditionnel pour son pays d'adoption, le Cap-Sizun, avec Pont-Croix comme capitale. Elle apporte son regard sur la force du territoire et des gens d'ici, qui a révélé un climat inhospitalier.
Vous êtes née ici ?
Non, pas du tout. Je suis née en plein Loir-et-Cher, près dans un tout petit village qui s'appelle le Gué-du-Loir et qui était donc finalement très connu parce que Antoine de Bourbon, père de Henri IV, avait vécu là. Et c'était et la chanson « La bonne aventure au Gué », c'était le château de la bonne aventure de notre petit pays. Et c'était... La bonne aventure au Gué, la bonne aventure. Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris. J'aime mieux mamie au Gué, j'aime mieux mamie. Vous voyez, et donc c'est un truc qui est connu, et c'était le château de la bonne aventure, qui a été notre terrain de jeu presque. Il était un peu en ruine. Il y avait un vieux monsieur qui habitait dedans. Il m'a appris à ouvrir toutes les portes avec des clés plus ou moins travaillées ou pas travaillées. Vous voyez, c'était magique. Et on est venu ici par hasard voir des amis qui habitaient dans la Grande Ruchère en mois de février. On a mangé dehors sous un mimosa en fleurs. Sortant du Loir-et-Cher qui était dans le brouillard, on a trouvé ça génial. Il y avait des gens qui étaient venus manger avec eux. C'était le charcutier qui, du coin, café, tout, qui sont venus manger avec nous. C'était chouette. Mmh. Et au-dessus, il y avait une maison à vendre. Et notre hôte nous dit, je connais le notaire, on a visité, et on a dit, ah bon, on achète. Ça n'a pas duré longtemps. 2 jours après, on avait vendu notre maison dans Loir-et-Cher et racheté ici.
Mais il y avait quelque chose de particulier à Pont-Croix pour que...
Ah ben oui.
Mais c'était quoi?
Un pays un peu différent, une rue incroyable, des pavés, des gens. C'était magique.
Qu'est-ce qui était différent par rapport chez vous?
Il y avait quelque chose qui n'était pas différent. C'était une très vieille maison, comme la nôtre, qu'on avait restaurée, qui était une maison du 15e siècle. Et donc, on a vu tout de suite qu'il y avait un petit quelque chose là-dedans. On n'avait pas trouvé tous les trésors qu'on a trouvés dedans. C'est-à-dire, les trésors, c'est la maison elle-même. Ici, il y a une chose très importante. C'est que dans le Loir-et-Cher, moi, j'étais, en principe, j'étais artiste, peintre, comme je pouvais, avec 4 enfants, c'est pas évident. Mais bon, voilà, j'avais fait des études de dessin, et voilà.
D'art plastique, donc, ouais.
D'art plastique et dessin, et, bon. Et alors, et j'ai vu chez les gens, tout le monde avait des tableaux de peintres. Ah ça, ça m'a frappé. Et de bons, des beaux tableaux. En fait, plein de peintres étaient venus ici. Mmh. Et moyennant le logement ou je ne sais quoi, ou même pour offrir, les gens faisaient un cadeau, il y avait plein de peintres. Les peintres étaient très bien vus ici. Dans le Loir-et-Cher, c'était des feignants. Hein ? Vous voyez pas bien, quoi. Tandis qu'ici, non. Ici, les peintres étaient reconnus. Ils étaient originaux. Ils pouvaient vivre comme ils étaient. Ils n'avaient pas de. Il y avait. C'était. Je sais pas. Les gens montaient en sabots, hein, la Grande Ruchère, et puis parlaient breton là. Nous, on était quand même dans un pays un peu étranger. Mais pas tout le monde, puisque ceux qui allaient à l'école, ils n'avaient pas le droit de parler français depuis déjà longtemps, à l'école publique. Mais les vieilles personnes, elles parlaient encore breton. Et avec des coiffes, les dames avec des coiffes encore. Donc on était dans un pays différent. C'était, je ne sais pas, ça j'ai trouvé ça génial. Il n'y avait pas de...
Au final, vous êtes plus senti chez vous ici?
Absolument. D'abord chez moi, moi j'étais dans un tout petit bled et puis j'étais en pension à 9 ans. Voilà. Bon, il y avait des choses très intéressantes, des grottes, parce que c'était des trucs troglodytes. Là où j'étais, c'était troglodyte. Donc c'était intéressant. Mais ici, on était au cœur des choses. Le Loir-et-Cher, c'est plutôt plan-plan. c'est sûr. C'est pas. Les gens étaient. Ça n'a rien à voir. Ici, les gens sont marins, ils ont vu la mer, ils ont vu du pays, ils avaient des objets, j'ai vu qu'ils avaient des objets qu'ils ramenaient de partout. Ça change toute une mentalité, ça n'a rien à voir. Les gens d'ici sont... je sais que ma fille a participé aux fouilles de l'allée couverte de Porcepoulan et elle a trouvé une perle, d'après ce que je crois, une perle en pâte de verre égyptienne, datant de je ne sais plus combien d'années. Ça veut dire qu'il y a toujours eu
du mouvement,
des ouvertures. Alors, ici, c'est quand même pas l'intérieur des terres. Hein. On est près de la mer.
Oui.
Ça change tout. Ça change tout au niveau de l'ouverture et tout ça.
De la prise de conscience aussi des choses qui sont pas forcément bonnes pour les gens. Les gens ici, ils ont tendance un petit peu à, on va dire, à l'ouvrir plus facilement que quand on est dans un pays comme le Loir-et-Cher.
Oui, c'est sûr, parce que par exemple, à côté, il y avait une affiche, c'était les boat people, je crois, à l'époque, pour sauver les boats. Et c'est vous dire que les gens étaient déjà branchés sur le monde. Chose que. Ça, moi, j'ai trouvé ça génial. L'histoire de la Bretagne n'a rien à voir avec le début. c'était autre chose. Bon, c'était fascinant.
Vous aviez conscience de ça avant d'arriver ici ou pas ?
Aucune idée. On est arrivé sans savoir rien.
Alors du coup, j'imagine que vous y êtes intéressé ?
Ah ben forcément.
Vous avez commencé par quoi, par exemple ?
Ben Plogoff, d'abord. Et à Blois, il y avait des centrales. Il y avait la centrale, je ne sais même plus son nom. Enfin bon. Et puis tout du long de la Loire, il y avait des centrales. Donc on n'était pas choqués ou pas encore. Sauf que dans notre pays, il y avait un agriculteur qui avait déplacé l'année où il a fait si chaud, en 1976. Il avait déplacé son arroseur dans ses champs sous des lignes à haute tension qui avaient, avec la chaleur qui s'était arrondie, assouplie, et il a été électrocuté devant son petit garçon. Donc ça, c'était quelque chose. Je savais que l'électricité, les centrales, les gros... Ça nous avait beaucoup marqué. Oui, parce que oui, c'était bon. Et puis alors, arrivé ici, moi j'ai trouvé que j'étais d'accord, que fallait pas. On est compte, c'était magnifique le lieu. Faire ça, c'était la Fontaine-Aude, un endroit magnifique. Alors, une centrale là. Non, mais ça va pas, la tête. Donc, et en plus de ça, ils devaient mettre acheminer l'électricité avec des pylônes traversant le cap et tout. C'était une aberration. Nous, on était dans un endroit génial, et puis d'un seul coup, ils allaient nous foutre des trucs, on n'avait pas repéré ça. Bon, donc on a participé. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas eu besoin de s'introduire automatiquement. On faisait partie d'une famille d'antinucléaires. Il y avait ceux qui étaient pour, il y avait ceux qui étaient contre. Et immédiatement, alors qu'on débarquait, on a fait partie d'une famille, avec des tas de gens, c'était super. Et on était introduits tout de suite.
Parce qu'ici, ils étaient majoritairement contre.
Peut-être moitié-moitié. La municipalité était pro, puisque ça leur amenait des sous, ce qu'on comprend. Donc le conseil municipal était pour, le maire, ils étaient pour. Mais, bah oui, donc, mais par contre, tous ceux qui étaient anti-nucléaires, c'était de tous les milieux. Ça n'était pas forcément de droite ou de gauche, ou truc. Non, c'était... Donc c'était, vous voyez, il y avait des gens de tous bords.
C'était un consensus.
Oui, vraiment.
Comment ça s'est passé la manifestation à ce moment-là ?
C'était assez horrible.
Ça s'est aggravé, les cailloux ont commencé à partir. Les hommes n'ont pas pu s'empêcher de prendre les cailloux qui étaient à portée de la main. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire contre ces gens-là. Le premier jour, moi j'étais un petit peu choquée. Je ne m'y attendais pas du tout, certainement, mais... J'ai compris pourquoi ils le faisaient. C'était leur seule défense.
Que Plogoff devienne une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain.
Parce qu'il y a eu quand même, je ne sais plus combien, 700 CRS dans le séminaire. Donc quelqu'un avait vu arriver quasi presque des tanks avec des camions la nuit. Alors, le séminaire était clos, vraiment, avec des murs très très hauts. Et eux, ils arrivaient à voir par-dessus les murs. Donc ils ont vu par-dessus les murs tous ces camions, ce tank, presque, trucs. C'était un truc énorme, hein. Et donc on est allé dire à Ouest France, à l'époque c'était Ouest France ou Journal, je ne sais plus lequel, et il faut venir. Faut venir voir ça. Vous montez au second de ces maisons qui sont en face les murs du séminaire et vous verrez tous. Ça c'était avant l'enquête d'utilité publique. Ouais. Ils sont arrivés avant. Ils se sont installés dans le séminaire qui était vide depuis 73.
Ah, c'est resté inconnu du public
au début.
Du coup, quand vous avez fait, vous avez appelé la presse, ça a explosé un petit peu.
Non. Vous savez, la presse à ce moment-là, elle était complètement éteinte. Il n'était pas question de parler de ça sans accord. La presse, elle était drôlement surveillée à l'époque. Monsieur Mitterrand a libéré la presse parce qu'à l'époque. Et donc, ils n'avaient pas voulu venir, ils n'ont pas voulu croire. Ils ne sont pas venus. Même ça a fait sécession.
Vous avez quoi comme souvenir de un moment particulièrement tendu ?
Bien d'abord, il fallait savoir courir. Il y avait des jets de pierre énormes. Il y avait beaucoup de gendarmes. C'était. Bon, moi j'avais mes quatre enfants, on appelait ça la messe de 5 heures, à 5 heures on allait à la relève, mais je restais prudente, j'ai pas essayé, puis j'ai jamais lancé un caillou, jamais j'aurais lancé des cailloux, mais j'ai trouvé génial, parce que c'était les femmes de Plogoff qui étaient au premier rang, et ça c'était super, et donc... En fait, les policiers qui étaient devant, les gendarmes, les CRS, ils étaient un peu... Ils ne savaient pas comment... Hein. Je pense que c'était intéressant, parce qu'ils ne savaient pas comment réagir devant ces femmes.
C'était une volonté des femmes d'être devant ?
Oui, pas d'abord, parce que les hommes étaient sans doute en mer et tout ça. Hein, parce que c'était des marins de commerce, beaucoup. Et donc, elles étaient fortes, et les femmes, fortes. Moi, ça, c'est ça qui m'a plu, Et donc, elles étaient tout prêtes. Et puis, je disais, mais comment, t'as honte? T'as pas honte de faire ça à nous? Pourquoi tu fais ça? Elles n'avaient pas peur. Elles étaient devant. Et ça mettait... C'était quelque chose de différent. C'était pas... C'était une lutte particulière. C'était génial. Dans le genre.
Il y avait eu de la casse ou pas?
On a cassé, je crois, beaucoup de murets. Tous les murets de Plogoff ont été cassés pour lancer les pierres. Donc ça...
C'était quoi, les murets qui séparaient
Les parcelles.
Les parcelles.
Mmh. Ouais, là, ils ont dégagé le terrain, là, c'est sûr.
Ah oui ?
C'est pas nous, hein, c'est pas moi, mais les gens.
Vous avez le droit de dire que c'est pas vous, même si vous l'avez fait. Hein.
Oh non, mais non, je suis pas le genre à lancer un caillou. Même un petit, je sais pas. Oui, et alors, c'était... Moi, c'était pas... J'étais pas en plein dans l'action contre tout. On était là, quoi.
Ça a duré combien de temps?
Je crois que c'était 6 semaines. 6 semaines, l'enquête publique. Ça, c'est 6 semaines ou 3 semaines. Je crois que c'est 6 semaines. Je sais plus bien.
Pas loin d'un mois, en tout cas.
Oui, je sais que le dernier jour, ça s'est passé à Pont-Croix. Et donc, on a suivi et tout ça. Et je sais qu'on a essayé. Il y avait des casseurs déjà. On sentait qu'il y avait des gens qui voulaient... Et on nous avait demandé d'encadrer. Et puis de parler avec les gens. Il suffisait de parler pour désamorcer les gens qui étaient trop casseurs. Et donc, on faisait le tour du séminaire qui était fermé. C'était une enclave fermée, le séminaire, complètement. Et puis, il y a eu des jets de grenades lacrymogènes et tout ça. Mmh. Ils en ont même jeté les CRS dans l'école. Et le lendemain, quand on a emmené nos enfants à l'école, moi, j'ai ramassé un truc qui était dans la cour. Et du coup, je pouvais plus... J'ai pleuré. J'avais une amie qui m'a tenu la main, qui m'a permis de rentrer à la maison parce que je ne bouais plus. C'était que les suites, mais c'était dans l'école. Donc c'était quand même un peu léger.
Ouais. Comment ça s'est fini cette histoire ?
Eh bien, d'abord, M. Mitterrand, qui était donc candidat aux élections, a dit qu'il ne ferait pas la centrale.
Et je dis très simplement que j'entends terminer les centrales en construction, que je n'entends pas mettre en œuvre celles qui ne le sont pas, et que Plogoff ne figure pas et ne figurera pas dans mon plan nucléaire.
Alors ça a beaucoup plu. Parce que les gens d'ici, de n'importe quel bord qu'ils étaient, ils ont voté M. Mitterrand. Eh bien oui, parce que... voilà. Ça se passait... Donc ça s'est calmé. Quand même, il y avait plein de réunions et tout ça. On a quand même beaucoup travaillé la question. Il y avait de l'humour, hein, beaucoup. Parce que en haut lieu, on prenait les gens pour des cons, en gros. Pour des gens... Il y avait toutes sortes de... C'est Nono, je crois, qui était un caricaturiste. Qui était
le dessinateur,
super.
Oui.
Super, il a fait des trucs géniaux là-dessus. Sur les vieilles dames avec la coiffe, là, et qui savait tout. sur l'énergie, surtout, qui pouvait répondre à toutes les questions alors qu'on les prenait pour des andouilles, quoi. Là, je pense qu'ils avaient dessiné ça de loin. Il y avait quand même 2000 habitants en Plogoff. Ils croyaient que c'était des terrains arides. Oui, donc ils se sont plantés, quoi. Donc,
Il y a d'autres communes qui sont joints à cette manifestation ?
Oh, beaucoup. Oh, oui, bah, Plogoff, c'était formidable. C'était génial. Les communes, j'en sais rien. Je ne sais pas comment. Tout dépendait des maires. Mais les gens, oui, de partout. Mais après, pour ce qui est des communes elles-mêmes, je ne pourrais pas dire.
Mais les gens, ils venaient de partout.
Ah oui, oui. Bah, oui, de l'étranger. Ici, énormément, de partout, quoi. Il y a eu des fêtes incroyables, je ne sais pas où ils dormaient, mais des fêtes à la pointe à la baie des Trépassés, avec, je ne sais pas, des milliers de personnes.
Ah ouais ?
Oui, oui, oui. Et à l'époque, c'était, si on me rappelle, il faisait chaud au mois de juin, il y a des manifs. Il y avait des gens à poil, tout, c'était sympa, quoi. Tout le monde faisait qu'est-ce qu'il voulait. C'était une sorte de libération. C'était drôle.
De la musique, des feux de camp, des tentes,
voilà,
des caravanes.
Des chants, super. L'ambiance était chouette.
Et il y en avait partout dans le Cap.
Oui, mais ils ont eu des idées incroyables. Parce que l'idée, par exemple, de mettre les poubelles systématiquement là où les CRS venaient se poser. Parce que l'enquête d'utilité publique, la mairie le maire avait refusé de faire ça dans la mairie. Donc, ils ont fait une mairie annexe. Et ils s'étaient installés près du petit calvaire, la petite chapelle du côté de l'Escoff. Et du coup, on a mis les ordures là. Les gens, ils apportaient les camions à l'époque, les camions poubelles. Et donc, ils étaient obligés de s'en aller. Donc après, ils se sont mis ailleurs. Puis, il y a eu l'histoire de comment dire, ils avaient fait un piège. Ils avaient plein d'idées, les antinucléaires. Quand on remonte de la baie des Trépassés vers l'Escoff, il y a plein de tournants. Et là, ils avaient mis deux assiettes avec dedans un réveil. Et quand le convoi, c'était un convoi qui allait tous les matins faire la garde pour surveiller l'agence annexe, la mairie annexe, ils ont eu peur que ce soit une bombe. Donc ça a stoppé tout et ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et
c'était que
un réveil avec deux assiettes bien. Ils avaient bien fait ça au milieu des trucs comme ça, quoi. C'est pour ça que c'était drôle. Il y avait des idées, quoi. Les gens, c'était pas violent, ça. C'était seulement.
C'est ça. Il y avait aucune forme de violence envers les.
Si, il y a eu quand même. Il y a eu quand même, mais. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Rien à voir.
Vous déplorez ce qui se passe actuellement ?
Oh, moi aussi, je supporte pas la violence. Surtout comme ça, parce que après ce n'est pas pour défendre quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que c'est. C'est violence pour violence, je pense. Et ça n'a rien à voir, c'est les casseurs, quoi. On avait peur qu'il y en ait ici, le dernier jour. Mais on était tous à surveiller. Il fallait les désamorcer. Rien qu'en parlant, les empêcher de... C'était encore des gens timides, peut-être, par rapport à... Bah, là, moi, je suis affolée par la violence des choses.
Que ce soit d'un côté ou de l'autre, ah, des oui. manifestants ah, ou
oui.
de la...
Oui.
Parce que là-bas, à l'époque, les CRS, ils faisaient quoi ? C'était juste un bouclier ? Ils vous empêchaient de passer ? Ou ils étaient quand même aussi un petit peu, on va dire, actifs ?
Un peu actifs ? Un peu actif, mais rien à voir avec ce qui se passe là.
Ouais.
Mais quand même, ils se protégeaient. En principe, ils étaient là pour protéger la mairie annexe, pour qu'on puisse aller en toute sécurité signer les registres dans le camion qui... Voilà. Bon. Je sais qu'au début, quand ils sont arrivés dans le séminaire... Ils sortaient et puis ils descendaient la Grande Richière en courant, en faisant du sport comme ça. Puis, très vite, ils ont arrêté. Hein.
Pourquoi ?
Bah, parce qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas bien perçus par la population. Hein. Donc, ils sont restés enfermés. Ouais. Donc, oui.
Tout à l'heure, vous disiez que ça avait laissé des séquelles.
Bah, y avait ceux qui étaient anti et ceux qui étaient pro.
Ça a divisé les gens, cette histoire ?
Oui, quand même, sur le moment, oui. Ça a été... Oui, sur le moment, oui, c'était... Ben, le maire de Pont-Croix était pro... C'est pas qu'il était pro-nucléaire. Il avait envie que ça se passe pour avoir des sous. EDF qui avait promis de faire, par exemple, j'y connais rien, un golf à 18 trous. Parler qu'on n'avait rien à foutre. Ça pouvait pas nous tenter, ici. Bénodet, peut-être, mais ici, non. Vous comprenez ? C'est pas... Ça n'a rien à voir. Et ils se sont plantés un peu quand même. Mais je pense que ça n'aurait pas été Mitterrand. N'importe qui aurait pu lui imposer quand même. Mmh. C'était pas gagné. Je veux dire, ça ne dépendait que de la décision finale d'une personne, hein, du président.
Ouais.
Parce que On n'est pas grand-chose. Hein. Si le gouvernement avait dit on le fait, bah, ça aurait été fait.
Madame de Courchelles a vu dans un contexte particulièrement difficile que la force des habitants de Pont-Croix et de tout le Cap-Sizun résidait dans un esprit de conservation du territoire, de la préservation de l'environnement et de l'héritage qu'ils lèguent. Et que malgré les dissonances, les conflits politiques intérieurs, ils ont su trouver la force de dire non, ensemble, pour préserver ce qu'ils considèrent comme leur patrimoine. Et ça, EDF l'a bien compris.
Produire plus d'énergie, c'est une nécessité. Mais préserver l'environnement, c'est vital. EDF s'engage à produire une énergie qui fera avancer le monde sans faire reculer l'homme. On appelle cela le développement durable. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur.
Vous venez d'écouter Mémoire de vie, Mémoire de ville, une collection sonore produite par votre radio associative locale avec le soutien de l'association des petites cités de caractère, de la Drac de Bretagne, des communes associées, sans oublier la participation de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au projet, à nos aînés qui ont partagé leurs souvenirs, leurs préoccupations, leurs espoirs. Merci également aux relais locaux qui ont rendu ce collectage possible. La collection Mémoire de vie, Mémoire de ville associant 6 radios et cette commune est à retrouver sur les ondes de vos radios associatives locales et en podcast sur le site de l'Accorlab.